Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est peu de dire que notre invitée, Corinne Pelluchon, est chez elle dans Idée, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Elle le pense, le monde, au fil de ses livres depuis plusieurs années. Philosophe, professeure à l'université Gustave Eiffel, elle est l'auteur d'une œuvre qui parle notamment du corps, du soin, de la considération et insiste sur notre dépendance à l'égard de la nature. Dans son nouveau livre qui s'intitule « L'être et la mer pour un existentialisme écologique », Corinne Pelluchon propose une nouvelle façon de considérer le rôle des individus, je la cite, « le rôle qu'ils peuvent et doivent jouer dans l'émergence d'un mouvement profond, susceptible de mener à des changements importants sur le plan social, environnemental, économique et politique. Pour cela, la mer, l'océan doivent être une source d'inspiration ». Nous allons voir cela avec elle dans un instant, dans un nouveau numéro de ce magazine que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et en tapant par exemple Idée RFI sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Corinne Pelluchon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Je crois que c'est la cinquième fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer dans cette émission. Nous avons eu déjà en effet l'occasion de converser dans Idée depuis quelques années autour de certains de vos livres, comme les nourritures ou comme éthique de la considération ou comme les lumières à l'âge du vivant. Je parlais d'œuvres parce que le livre dont nous allons parler, Corinne, « L'être et la mer », doit être replacé dans le contexte de ce que vous écrivez depuis quelques années.
Oui, merci d'abord de me recevoir encore une fois. Oui, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans la continuité de mon travail, lequel souligne le lien entre une philosophie de l'existence, où l'humain est pensé dans sa corporalité, dans la matérialité de son existence, dans sa dépendance à l'égard des éléments, des aliments, des écosystèmes, de la nature. Et j'en tire donc des conséquences au niveau écologique, politique. Donc il y a ce lien entre une philosophie de l'existence et l'écologie. Mais il y a quand même une différence, car jusqu'à présent, j'ai pensé la condition terrestre de l'humain, ce qui soulignait aussi la communauté de destin avec les autres vivants. C'était une sorte de coexistentialisme. La cohabitation de la Terre, qui est la manière dont je définis l'écologie, eh bien, pointait justement nos devoirs envers les autres vivants et impliquait que les finalités du politique étaient pas seulement un jeu entre nous, mais impliquaient la protection de la biosphère, finie, etc. Cette fois-ci, je pense l'humain à partir d'un élément dont il vit, l'eau, mais qui lui est étranger. Je pense l'humain et à partir de la mer et en explorant les dimensions multiples de la mer que les poètes ont mis en lumière. Elle est à la fois source de vie, mais également effrayante. Elle est une mère, une protectrice, une matrice, mais elle est également donc l'immémorial, la mémoire, la mort. Et surtout, le principe, les deux principes de cette philosophie marine, c'est l'unicité de l'océan, le fait qu'il y en a un. Et qu'il recouvre tout, qu'il y a une préséance sur les terres qui sont comme des îles émergées. Donc qu'est-ce qui se passe quand on pense...
domine, et qui domine l'océan, voilà. La mer qui domine la terre.
Absolument. Et qu'est-ce qui se passe quand on pense l'humain à partir de la mer, et j'en tire les conséquences au niveau d'une philosophie de l'existence, mais également pensant la submersion hein, en particulier, et en pointant aussi le caractère ambigu, ambivalent de l'humain, et j'en tire les conséquences au niveau juridique du droit international de la mer et politique.
Donc c'est à la fois un livre de philosophie, un livre très politique au sens large du terme.
Oui, c'est un livre, disons que c'est un livre aussi qui souligne l'actualité de l'existentialisme, parce que la situation actuelle, géopolitique, politique, mais également climatique, avec la possibilité d'un effondrement, eh bien, cette situation actuelle nous met en face de l'incertitude constante dans laquelle nous vivons. Il y a des risques majeurs auxquels nous sommes confrontés, également une incertitude. Et cette situation-là souligne l'actualité d'un courant de pensée qui a été très important après la Seconde Guerre mondiale notamment, qui souligne le lien entre la contingence, le fait que nous ne sommes pas au fondement de notre existence, et la liberté. Elle souligne le lien aussi, cette pensée, existentialisme, entre l'indétermination du sens, le fait que notre existence n'a pas de sens a priori, ou en tout cas il n'est pas facile à trouver, qu'il faut le conférer petit à petit. Donc le lien entre l'indétermination du sens et la responsabilité, voire la démocratie. Et donc l'existentialisme, qui s'inscrit dans aussi ce que j'ai fait dans mon travail en phénoménologie, en philosophie, Lévinas, Merleau-Ponty, bien l'existentialisme est un courant de pensée qui peut être tout à fait actuel, mais il s'agit de l'enrichir. La situation actuelle, en particulier l'écologie, qui souligne notre interdépendance, invite à l'enrichir. Et moi, je montre que l'existentialisme écologique n'est pas seulement un coexistentialisme, une réflexion sur notre cohabitation avec les autres vivants, mais suppose un décentrement radical du regard et suppose qu'on... En fait, l'idée centrale, qu'on parte en mer, qu'on parte en haute mer, qu'on plonge dans le sans fond de l'existence pour mesurer notre ambivalence, le caractère sublime et abyssal de notre existence, et aussi qu'on pense que justement la nature et les mers et la mer ne sont pas vues à partir de notre rivage et notre point de vue terrestre et territorial, mais impliquent justement ce décentrement. Et donc, il s'agit de rompre avec un imaginaire terrestre et territorial et une ontologie solide, un marqué par le rigide, le statique, pour justement comprendre mieux notre, à la fois notre identité fluide et aussi justement pouvoir sortir d'un discours guerrier ou d'un vocabulaire nationaliste de la souveraineté qui nous empêche justement d'aller plus loin dans la transition écologique.
Corinne Pelluchon, votre existentialisme est donc différent de celui de Jean-Paul Sartre. Après-guerre, vous le disiez, l'existence précède l'essence et finalement, ce qui compte, c'est l'expérience vécue. Un existentialisme qui est un humanisme, qui plus est, hein, c'est pour reprendre le titre du livre de Sartre en 1946, vous, c'est un existentialisme donc ouvert vers l'autre.
Oui, alors il y a beaucoup de choses fondamentales dans l'existentialisme de Kierkegaard, hein, on oublie souvent
Kierkegaard.
Oui, parce Kierkegaard.
Qu'on parle souvent de Sartre, mais l'existentialisme ne se réduit pas à Jean-Paul Sartre. Hein, il y a un existentialisme laïque et il y a même un existentialisme religieux aussi.
Tout à fait, celui de Kierkegaard. Alors c'est vrai qu'il y a des choses fondamentales, hein, magnifiques chez Jean-Paul Sartre, notamment sur cette réflexion sur la déréliction, sur la précarité de notre existence, le fait qu'il y a un sans fond, hein, nous ne sommes pas le fondement de notre existence, il y a cette précarité et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, mais il faut le conférer et nous sommes seuls et sans excuses. Nous devons justement, par nos actes, trouver un sens à notre existence. Mais c'est une pensée qui n'a pas beaucoup développé la réflexion sur le rapport aux autres vivants, mais surtout qui... est lié à un imaginaire solide. Hein. On est là, le projet se projette à partir d'un ici pour aller vers là-bas. Il y a quelque chose de volontarisme. Sartre dit « je suis ce que je fais ». Alors que moi, j'insiste, c'est un existentialiste qui est moins individuel ou individualiste et surtout qui est moins lié à ce volontarisme. Parce que chez Sartre, on a l'impression que la contingence radicale de notre existence, qu'il ressent énormément, est compensée par ce volontarisme. Et il n'y a pas non plus de transcendance. Alors que chez moi, je parle de structure de l'existence comme la flottaison et c'est lié à l'introduction d'une notion fondamentale dans mon travail qui est une transcendance dans l'immanence, c'est celle de monde commun. Alors que l'être et le néant chez Sartre, hein, c'est un existentialisme athée, moi je ne parle pas de Dieu, mais j'introduis la notion de monde commun qui m'accueille à ma naissance et devrait survivre à ma mort individuelle, qui est fait du patrimoine naturel et culturel, ce monde plus vieux et plus vaste que moi qui m'accueille à ma naissance, et bien pour moi ce monde commun, eh bien, qui illustre la mer, ou plutôt l'océan, eh bien, il donne une épaisseur à mon existence et fait que je ne suis finalement toujours immergée. Je ne suis pas seule tout à fait. Je suis accueillie sur une frêle embarcation avec les autres. Il n'y a pas cette dimension de seulement individuelle qu'on trouve chez Sartre. Et surtout, il y a ce monde commun qui donne un horizon à mon existence qui est plus que, ou qui n'est pas seulement réductible à l'histoire ou à des idéologies. Donc ça, c'est vraiment très important. Et moi, les structures de l'existence que j'ai développées sont liées à les catégories d'immersion dans ce monde commun et à cette idée de flottaison. L'existence comme projet, c'est pas si solide que ça, c'est une manière d'émerger de ce sans fond. Et puis il y a la submersion qui est à la fois positive quand je fais l'expérience de mon appartenance à un monde commun plus vieux et plus vaste que moi et que j'éprouve la solidarité avec les autres, mais elle est également très effrayante car cette transdescendance ou expérience de mon appartenance dans cette mer, cet infini, elle me fait éprouver mon existence comme transitoire. Et donc, j'ai approfondi un thème cher aux existentialismes, à savoir ce lien entre la conscience de ma mortalité et la possibilité que j'ai de mener une vie qui a du sens et qui peut-être pourrait être bonne avec les autres. Et empêcher justement, parce que ça c'est très important dans mon travail, empêcher ces crues orgiaques ou cette folie qui est liée non seulement à l'invasion de l'inconscient, mais à cette tentation d'une sorte d'orgia, cette tentation de vivre au-delà de soi, qui est propre à l'humain, mais qui peut donner lieu à, quand on est dans le déni de la mort, à l'addiction à la consommation, au présentisme, ou même à une folie à plusieurs que, justement qu'exploitent les nationalistes et autres extrêmes.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes en compagnie de Corinne Pélichon et avec elle nous parlons de son dernier livre en date, son nouveau livre qui s'intitule « L'être et la mer pour un existentialisme écologique ». Existentialisme écologique, Corinne Pélichon, ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion d'enracinement, pas cette notion de frontière, de territoire, pas cette notion de solide puisque la mer c'est la fluidité par excellence. Tout est fragile finalement.
Oui, tout à fait. Et là, je crois qu'il faut dire que ceux et celles qui m'ont donné l'inspiration pour ce livre, ce sont les poètes. Arthur Rimbaud, St. John Peirce, mais également Virginia Woolf dans Les Vagues. Parce qu'on a une ontologie marine, on a une ontologie des fluides, on a une réflexion sur le fait que c'est vrai, dans l'eau, dans la mer, il y a des courants et... D'ailleurs, les déchets sur Terre arrivent en mer, il n'y a plus de frontières. Mais aussi au niveau de notre psychisme, le lien à la mer, à la mémoire, à l'immémorial, est au cœur d'ailleurs des vagues. Hein. L'identité est beaucoup plus fluide qu'on ne le dit. Certes, nous avons besoin de repères que nous figeons, que nous spatialisons, mais il y a cette... Quand on plonge dans le sans fond, pour ainsi dire, de l'existence...
Dans les abysses,
eh bien, on plonge dans cette mer qui peut, encore une fois, être un vertige, mais qui peut aussi enrichir notre perception.
Cette perception est au cœur aussi de votre travail, avec cette notion qui vous est chère, qui revient dans d'autres livres aussi, c'est cette notion de convivance. De quoi s'agit-il ?
C'est-à-dire que la convivance, c'est une étape de la considération, une étape de la considération que je définis par la transdescendance, c'est-à-dire par cette immersion volontaire dans ce monde commun qui m'accueille à ma naissance, qui est plus vieux, plus vaste que moi, qui est fait de tout ce qui a été légué par les ancêtres. Et au lieu de simplement embrasser donc cet monde commun, eh bien, on peut s'arrêter, si j'ose dire, à la communauté politique à laquelle on appartient. Donc la convivance, c'est une étape de la considération. Mais c'était très important pour moi, parce que d'habitude, on pense l'écologie comme étant contraire à l'humanisme, comme étant contraire à... comme s'il y avait à choisir entre l'humain et la nature. Or, moi, je montre que, il y a une solidarité entre cette réflexion sur la convivance et la convivialité et, justement, plus que la protection des écosystèmes, mais une autre manière d'envisager le rapport aux écosystèmes. Et c'est vrai que ce que fait la mer à notre imaginaire est fondamental, parce que là, vraiment, en partant de la mer, on dépasse le vocabulaire de la préservation des écosystèmes pour penser, justement, notre appartenance à des communs dont nous avons que l'usufruit, ou même penser l'unité de l'humanité et les terres qui sont comme des îles émergées. Il y a une sorte de modèle, de paradigme qui est non pas celui de continent qui serait bordé par les mers, mais plutôt d'îles avec une unité sous-marine entre nous. Donc il y a vraiment une manière, avec la mer, on rénove l'imaginaire et vraiment ça aura des conséquences fondamentales sur la manière dont on pense le rapport au commun et dont on pense le droit de la mer, le droit international de la mer, dont je souligne les contradictions. Et puis, il faut vraiment dire qu'aujourd'hui, parler du climat en se focalisant sur les terres, ça ne suffit pas, parce que l'océan a des fonctions écosystémiques majeures, et pas seulement de régulation des températures, etc. Il y a des risques de submersion de pas mal de villes, et il y a une pollution plastique et sonore dont souffrent énormément les poissons et mammifères marins, dont il est beaucoup question. Donc tout ça, c'est vraiment fondamental, mais les mers sont également le lieu d'une compétition militaire et économique affolante.
Corinne Pelluchon, être avec la mer, c'est d'abord être humble. Tout marin, toute personne qui côtoie la mer, qui vit avec la mer, sait qu'il faut être humble. Là aussi, c'est une leçon.
Humble, solitaire et solidaire. Parce que humble, oui, parce que c'est effectivement la mer peut être effrayante. Il y a aussi, c'est le lieu de l'entre-dévoration. On ne peut pas y vivre sans équipement. Pendant longtemps, les marins faisaient leur métier au péril de leur vie. Et en même temps, il y a une solidarité nécessaire parce que sur un bateau, on ne peut pas consommer les vivres n'importe comment. Il faut vraiment avoir ce souci des ressources rares. Donc ça, c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, pour fonder une politique de la sobriété, ou en tout cas une politique qui soit vraiment importante au niveau écologique, il faut partir de la limite, il faut partir de la rareté et peut-être de la possibilité de l'effondrement. Parce que ça permet justement non seulement de ne pas tout gaspiller, mais aussi peut-être de reconnaître ce qui est suffisant pour soi, ce qui est vraiment un mot qu'utilise André Gorz, c'est qui n'est pas assez l'équivalent de l'ascétisme, mais ce qui emplit ma vie, ce qui lui donne du sens.
Ce qui veut dire également, vous avez utilisé cette image, et vous la reprenez dans le livre, vous la développez, cette image d'équipage. C'est-à-dire que quand on pense aux habitants de la Terre comme membres d'un équipage, on les voit différemment.
Oui. Parce que c'était aussi une manière de se distinguer de l'existentialisme de Sartre, qui a bien du mal, en tout cas dans L'être et le néant, à articuler l'exigence d'authenticité de l'individu avec un engagement politique. Plus tard, ce sera l'idéologie qui fera le lien, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Au contraire, en pensant non pas à un individu isolé, mais à un individu qui est accueilli par ses parents, par une communauté politique, la convivance, on est dans l'image du petit bateau, mais on n'est pas tout seul, on est embarqué avec d'autres. Et vraiment, là encore, une fragile embarcation, puisqu'il y a la possibilité d'un naufrage, mais il y a aussi des règles à suivre, il y a aussi l'idée d'une solidarité pratiquement imposée. Là aussi, je parle de communauté négative. Souvent, on parle du bien commun en se demandant d'ailleurs qui va le formuler. Mais il y a peut-être non seulement un monde commun, mais aussi une communauté négative entre nous liée justement au risque commun auquel nous sommes confrontés. Et c'est cette idée que l'équipage fait ressortir cela. Mais je voudrais ajouter que, parlant d'équipage, de flottaison, on pourrait me dire « mais vous employez des métaphores ». Alors, tout au long de ce livre, j'ai essayé justement de me mettre au niveau de ce que demande une réflexion sur la mer et le liquide, puisque justement le concept fige, la pensée fige et découpe. Mmh. Là, il s'agit justement de penser ce qui est fluide. Et donc, on a quelque chose qui échappe un petit peu à la pensée laquelle solidifie le réel. Mais c'est vrai que la métaphore, pour parler comme Ricoeur, est une métaphore vive, c'est-à-dire que ces métaphores, ce n'est pas des images ou des illustrations d'une pensée, c'est une manière d'associer le vécu et l'expérience et d'ajouter à une signification première, dégagée par le concept, d'autres significations qui enrichissent notre perception. Et c'est vraiment là, vraiment, quand on réfléchit sur ce que la mer, ou penser l'humain à partir d'un élément dont il vit, mais qui lui est étranger, et à partir de l'océan, penser comme premier par rapport aux terres, comme dans la Bible, mais également comme dans la tradition grecque, alors ça fait vraiment bouger la pensée, et ça nous oblige à radicaliser la phénoménologie, qui, avec Husserl, Lévinas et d'autres, n'est plus une pensée de la représentation où il y a une conscience qui voit le monde comme un objet pensé devant lui. Mais on est resté prisonnier de l'image de la vision qui met à distance l'objet. Ici, il s'agit de plonger dans le sans fond de l'existence, dans la mer, et j'ai, moi qui dans le passé avais travaillé sur le goût, l'alimentation, donc des organes, des sens internes, qui soulignent la réceptivité de l'existence, là, j'ai travaillé sur l'audition, et aussi sur les voix sonores ou les présences auditives qu'on a dans l'océan qui n'est pas muet. Et,
au contraire, le son s'y répand plus vite.
Plus vite, et puis il y a ce que nous n'entendons pas beaucoup, mm-hmm. puisque notre spectre sonore est assez limité, mais avec l'hydrophone, on entend les présences auditives ou les chants des baleines, et j'ai essayé de voir ce que c'est que le son qui nous enveloppe et comment l'écholocalisation des dauphins qui ont un sonar, comment cela renouvelle la perception du monde. Donc ce décentrement, ce voyage dans le fond et auprès des mammifères marins et des poissons est également une manière non pas seulement de saluer leur existence, mais de nous décentrer et de voir aussi que, parce qu'il y a une géographie marine, quand on construit, qu'on marche, moi tout à l'heure j'étais justement, je pensais à ça en métro, on a l'impression que tout est solide, la terre c'est solide, alors qu'en fait c'est un fluide lent, et les tsunamis sont là pour nous rappeler à quel point il y a des frictions, il y a des mouvements, des plaques tectoniques. Donc c'est vrai, vous voyez, la question de la mer invite à prendre conscience de la fragilité, de la petitesse de la terre qui, encore une fois, n'est pas un bloc de granit, mais une île.
D'ailleurs, un des personnages de votre livre, c'est la baleine, Corinne Peluchon, le chant de la baleine.
Oui, c'est vrai que j'ai écouté pendant longtemps des chants de baleines, j'ai essayé de me faire expliquer aussi tout ce qui concerne la pollution sonore et la vie très complexe de ces mammifères marins qui sont un peu entre nous et les poissons, puisqu'ils ont besoin de venir respirer. Alors c'est extraordinaire, et c'est vrai que j'ai fait une sorte d'épiphanie de la baleine en référence ou clin d'œil à l'épiphanie du visage de Lévinas, philosophe qui compte tant pour moi. Eh bien, c'est vrai que la manifestation de la baleine, qui est surprenante quand on en voit, c'est majestueux, c'est immense, eh bien, ne dit pas tout. Son expressivité, sa signification déborde, est en excès. Il y a quelque chose comme un appel de ces animaux. Et c'est vrai que les baleines sont des ambassadrices du monde marin fascinant et étrange, qui est quand même un monde que nous abîmons. Et la désolation de l'océan qui se réchauffe, où c'est un abattoir, il y a des tortues, des dauphins qui sont piégés, sans parler des massacres au Japon par exemple, ou ailleurs des baleines et des dauphins, eh bien tout cela s'est invisibilisé. Et donc il s'agissait de prendre conscience du fait que l'échouage des baleines, le fait que si elles disparaissent, eh bien c'est notre monde qui s'appauvrit. Mais ça ne veut pas dire que que les poissons soient rien. Et moi, qui ai beaucoup travaillé en éthique animale, je trouve que souvent, on oublie les poissons qui seraient comme des êtres dont on ferait peu de cas. Parce que, évidemment, on n'entend pas leurs cris. Donc, c'est aussi tout ça que j'ai voulu dire.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Corinne Pelluchon, votre livre, votre réflexion sur la mer, sur l'océan, cette réflexion philosophique ne veut pas dire que vous préconisez une fusion en quelque sorte de l'homme avec la nature et les vivants, chacun à sa place.
Oui, et vraiment merci pour cette question, parce que souvent les partisans des humanités environnementales, ou plutôt de l'éthique environnementale, sont écocentristes, ou en tout cas, ils pensent à partir du tout. Et certains d'entre eux ont tendance à adhérer à une sorte de métaphysique du mélange qui ne fait pas de différence entre humains, animaux, plantes, etc. Moi, justement, si je prends si je m'appuie de livre en livre sur la philosophie, sur la phénoménologie et ici sur l'existentialisme, c'est pour dire qu'il y a des ressemblances entre nous et les animaux, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a également des différences. Et les différences sont fondamentales. Et donc justement, il y a non seulement des différences, mais je voulais cette fois-ci aller encore plus loin et prendre la mesure de l'ambiguïté de l'être humain. Car une des grandes différences que nous avons avec les animaux, c'est cette manière de ressentir notre vie et notre rapport au monde comme étant très étrange. Et là, je suis très proche d'Albert Camus, plus que de Jean-Paul Sartre, qui souligne ce sentiment d'absurde que nous avons tous, ce besoin qu'a l'humain, bien, non seulement de conférer un sens à son existence, mais d'être reconnu, d'avoir le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que lui. Sinon, il a le sentiment de n'être rien. Ce sentiment aussi que notre propre mort, qui est la destruction de notre individualité, génère une terreur. C'est-à-dire que la mort, il ne faut pas dire, comme Heidegger, que c'est d'abord une solution, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être authentique, c'est d'abord un problème, car elle génère un sentiment de terreur qui nous submerge, et la tentation est très grande d'user de stratégies psychologiques pour nier, pour être dans le déni de la mort et penser qu'on vivra tout le temps, qu'on a un temps illimité. Et ça a du sens à la fois pour l'individu et pour les collectivités. Aujourd'hui, c'est aussi ça que j'ai voulu penser. Si la multiplication des rapports sur l'écologie, si la multiplication des manifestations incitant à vraiment prendre à bras le corps le réchauffement climatique, si les guerres existent aussi avec des dangers fondamentaux dont tout le monde est conscient, eh bien, toutes ces informations réactivent notre angoisse de mort. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, loin de nous rendre sobres et sages, c'est risque nous pousse à être encore plus dans la démesure, dans le déni de la mort.
Dans une sorte de fuite en avant.
Bien sûr, il faut le comprendre. Donc moi, j'ai essayé d'aller au fond, si je puis dire, de l'ambiguïté de l'humain. C'est ça, l'existentialisme, c'est une philosophie qui prend la mesure de notre ambivalence et de notre ambiguïté, donc des contradictions que nous avons et des difficultés que nous avons à justement accorder la théorie, la pratique, la pensée et l'action. C'est aussi prendre la mesure de notre destructivité. Et ça n'enlève rien à tout ce qu'il y a de sublime chez l'humain, sa créativité, son historicité, son identité qui est narrative. Là aussi, la réflexion sur la mémoire et l'immémorial, c'est aussi une spécificité quand même de l'humain. Donc il y a des points communs et des différences. Et c'est pour ça que l'existentialisme écologique est un humanisme, mais évidemment, ce n'est pas un humanisme anthropocentré. Il implique un décentrement radical du regard jusqu'à penser, encore une fois, non pas avec nos yeux de terriens qui sommes posés sur le, avec nous posés sur le sol, et puis on a l'impression qu'on va mettre des frontières et quadriller tout, y compris la mer, comme des champs, mais au contraire, en prenant conscience de ce naufrage possible et cette submersion possible de notre psychisme et de nos terres.
En tout cas, il faut vivre avec les yeux ouverts, c'est ce que vous dites.
En ce sens-là, oui. Mmh. C'est-à-dire prendre conscience de la submersion possible, à la fois de notre psychisme, pour le bon et pour le mauvais. L'expérience du désir est une submersion, mais l'expérience aussi de ces crues orgiaques dont parle Patochka, de cette folie à plusieurs, qu'est le nationalisme par exemple. Et puis les submersions marines concrètes, encore une fois, de certaines villes qui seront submergées par les eaux, mais c'est aussi lié au fait qu'on exploite trop les réserves aquatiques. Il y a aussi toute cette réflexion sur notre modèle de développement qui conduit à des dégradations et encore une fois, celles de la mer sont presque invisibles. Invisibles, en tout cas, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles ont des conséquences majeures. Que l'océan se réchauffe, cela va avoir des conséquences majeures. De même, il y a une pollution et il y a l'enfouissement lors de la Seconde Guerre mondiale de tout un tas de...
d'armes, de produits
chimiques très dangereux, très toxiques, et ils sont dans des containers qui s'érodent. Donc il y a des risques majeurs. Tout ça, c'est vraiment, sans parler, encore une fois, de la souveraineté, ou plutôt de l'impact militaire sur les océans, et inversement, de la course pour conquérir des mers, et ça c'est vraiment très important.
Ce que vous appelez la thalassopolitique.
Alors la thalassopolitique, c'est une manière de d'abord de souligner le lien entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe en mer. Parce que là encore, on fait de la mer des déchets. Il y a des gyres qui sont des sortes de poubelles au cœur de l'océan, en haute mer, qui sont énormes, c'est gigantesque. Et la thalassopolitique, c'est une manière de faire de l'océan une priorité. C'est-à-dire, non pas, encore une fois, de parler de la préservation de l'océan tout en continuant à avoir un rapport instrumental, non seulement à la nature, mais à l'océan, et en s'en servant de poubelle, de prendre la mesure du fait que c'est un poumon, que c'est une nourrice. Et donc ça, c'est vraiment important, et j'ai vraiment voulu pointer à la fois l'importance des textes, notamment européens, depuis 2020, sur le droit de la mer, sur même, non pas une croissance bleue, mais une économie bleue, qui atteste une réflexion sur la durabilité forte, c'est-à-dire que l'idée, ce serait de maintenir l'écosystème marin au-delà de nos usages actuels, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut une ontologie marine, c'est-à-dire pour dépasser les contradictions du droit international de la mer qui juxtapose un idéal ou un impératif écosystémique, protégeons l'océan, avec finalement des réflexes de compétition économique. Alors c'est toujours pareil dans le droit international de la mer, on se dit il faut, dans le CNUDUM de 82...
Qui définit donc des frontières, la notion d'eau territoriale,
oui,
par exemple.
Oui, mais qui depuis 82, et ça a été actif dans les années 90, qui soustrait la haute mer, qu'on appelle la zone, à la législation exclusive des États. Et l'idée, c'est que les réserves génétiques et les ressources en haute mer doivent être partagées. C'est l'idée de l'équité. Sauf que, en restant dans ce modèle, on ne peut pas éviter la tragédie des communs, puisque chaque État voudra profiter en haute mer, ça n'appartiendra pas à un seul, alors qu'effectivement, les zones, les ZEE, les zones économiques, sont près d'à peu près 300 km auprès des rivages, ça appartient à un pays, mais on ne va pas, dans la mesure où l'idée c'est encore que la mer serait un patrimoine qu'on pourrait partager, ses richesses, ça ne suffit pas, il faut vraiment aller au-delà de ce modèle pour justement éviter cette tragédie des communs où chaque État va exploiter.
Comme dans l'espace finalement.
Alors, je ne suis pas penchée sur l'espace, mais je crois que c'est un peu plus difficile d'aller dans l'espace. Alors qu'il y a aussi une chose dont je parle assez peu, mais qui mériterait vraiment d'être creusée, c'est aussi tous les parcs éoliens. La mer va être l'enjeu dans les années qui viennent de débats sur l'énergie, sur les transports, etc. Ça va vraiment être un enjeu colossal.
Mais ça, c'est la mer vue comme un objet économique.
Mais malheureusement...
Les ZEE, les zones économiques exclusives, c'est une vision de la mer qui est assez
mercantile. Oui, mais c'est vieux comme le monde, si je puis dire. Mais à la rigueur, même la zone, ce qu'on appelle la zone en haute mer, elle n'est pas soustraite à la prédation, à la surexploitation. Elle est soustraite à la juridiction exclusive d'un État, mais il y a beaucoup de dumping qui se passe, c'est-à-dire du déversement, du dégazage en haute mer. Pourquoi ? Parce que ça échappe justement à la juridiction et il y a une fragmentation du droit de la mer. Et moi, j'ai essayé de voir pourquoi le droit international de la mer, qui était plein de bonnes intentions, ne suffisait pas et quelle philosophie était derrière. En fait, moi, dans mon regard, j'ai un regard un petit peu souterrain en essayant de voir les pensées qui sont derrière le droit, les catégories éthiques et ce qui va et ce qui ne va pas.
Suite de ce numéro d'idées, Corinne Pelluchon, dans ce livre, comme dans les précédents, le corps est important. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un cerveau, n'est pas un objet d'études scientifiques. C'est un corps avec ce que cela suppose, la pensée, mais aussi le physique, le reste.
Oui, tout à fait, mais cette fois-ci...
C'est une philosophie du corps que vous continuez à développer.
Oui, c'est sûr, parce que la corporéité, comme dit Lévinas, c'est pas seulement le fait d'avoir un corps et d'être mortel, c'est le fait qu'on maîtrise pas tout, pour le dire, qu'il y a des phénomènes qui échappent à ma conscience, à mon intentionnalité, fatigue, insomnie, mais aussi désir, mais aussi, bon... Là, c'est vrai, il y a le corps, mais c'est aussi... un corps où on est moins à l'aise dans l'eau, à la fois il y a le plaisir baigner, il y a aussi des choses archaïques quand on se baigne, chacun a fait cette expérience, hein, quand on voit la mer et quand on se baigne, on prend un bain de mer, on a une sorte d'apaisement, il y a plein de choses archaïques qui arrivent, hein, et il y a toute cette exploration de l'univers marin qui est toujours une plongée. Nous venons aussi de l'utérus maternel, nous avons baigné dans le liquide amniotique. Donc je crois que la mer aussi, c'est pour ça que les poètes, les écrivains le disent très bien, ça nous rappelle tout cela. Mais donc c'est une corporéité, et cette fois-ci j'ai voulu aller en deçà de ce que nous voyons pour travailler sur l'inconscient, sur le désir, sur aussi le fait de baigner. Et c'est pourquoi, au lieu de parler du toucher, du goût, de la vue, j'ai parlé de l'ouïe, qui m'enveloppe. Quand j'entends quelque chose, je suis dans une immersion. C'est le sens de l'immersion et de la participation au monde commun. Là, il y a un exercice d'éco-phénoménologie, d'une phénoménologie qui enquête sur notre perception des choses, sur la nature de notre perception, et cela révèle notre expérience du monde, encore une fois, qui est celle d'une immersion dans un monde plus vieux, plus vaste que soi. Alors bien sûr, comme nous avons notre cerveau, et puis que nous avons nos yeux, nos jambes, nous essayons de quadriller. L'humain, c'est un être, ce bipède est très terrestre. Il l'organise, il construit des murs, il n'arrête pas des frontières. C'est vrai, quand on est avec un animal, on sait déjà qu'il entend beaucoup de choses que nous, on n'entend pas. Là, je vais dans l'eau, où là, nous ne voyons pas bien, dans l'eau, et nous entendons assez peu, nous. Nous avons les hydrophones, et là, nous sommes autres. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire.
Parce que la vie aussi est au cœur de ce livre, parce que à propos des profondeurs, vous nous rappelez que en fonction de la profondeur de la mer, il y a toujours la vie, en fait, avec ou sans lumière. Je crois que la lumière pénètre jusqu'à 200 ou 300 mètres, mais après la vie dans le noir continue, y compris dans les fosses abyssales que l'on ne connaît pas bien.
Qu'on ne connaît pas bien. Alors il y a des découvertes en ce moment. Sur le fait que c'est pas complètement noir et puis il y a de la vie partout. Ce qui est vrai, c'est que la moyenne de la haute mer, c'est 4000 mètres, mais ça va jusqu'à 11000. Donc, et puis, il y a une géographie incroyable qu'on ignore tout à fait. Enfin, je veux dire, moi, avant de me plonger, pour ainsi dire, dans ces connaissances,
cartes
de géographie marine, on imagine tous que la mer, c'est comme lorsqu'on va se baigner. Bon, il y a un petit fond dessous, il y a du sable, et puis c'est plat. Non seulement c'est pas plat, non seulement c'est pas silencieux, mais alors il y a des poissons bioluminescents qui sont comme des petits astres. Il y a tout un tas de choses.
Il y a des montagnes.
Il y a des montagnes, il y a des chaînes, il y a des plaques tectoniques. Alors ça, on s'en rend compte quand il y a des tsunamis. Oui. Mais du coup, je trouve que c'est incroyable de prendre conscience du fait que nous voyons le monde avec nos yeux de terrestres, avec notre équipement terrestre, mais que bon, les poissons, les mammifères marins sont différents et que là, nous sommes sur une surface submersive qui est comme un fluide lent et notre conscience est un tourbillon. Parler comme Merleau-Ponty, qui reste dans une philosophie du toucher, mais qui de temps en temps, dans le visible et l'invisible, emploie des métaphores marines de submersion, donc moi, et d'immersion. Donc moi, j'ai vraiment travaillé sur tous les registres de l'immersion, de la submersion, à la fois au niveau individuel, conscient, inconscient, et au niveau concret de cette géographie marine et de la rencontre avec ces êtres prodigieux dont nous connaissons pratiquement rien. Parce que alors, dans la mer, déjà dans la nature, on ne connaît pas grand-chose, mais alors dans les poissons, les symbioses, les phénomènes de symbiose, on connaît très peu de choses.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
C'est donc, et là on l'a compris, les auditeurs qui nous écoutent depuis le début de l'émission l'ont bien compris, c'est un renversement de perspective.
Oui.
Que vous nous invitez.
Oui, c'est un renversement de perspective tout en étant quand même dans une philosophie de l'existence. Moi, je ne sépare pas la nature et l'humain, on l'a dit tous les deux tout à l'heure. Il ne s'agit pas de partir d'un grand tout. Personne ne peut avoir la vision du tout. Nous sommes comme nous sommes et nous voyons le monde à partir de nous. Mais c'est vrai qu'en pensant la nature, les terres à partir de l'océan, dont la Bible, dont aussi Thalès, nous disent qu'il était là en premier et qu'il a une préséance, pour ainsi dire, sur les terres, et qui est premier. Il y a ces océans qu'on a appelés Pacifique, Arctique. Néanmoins, il y a un seul océan. C'est aussi, les océanographes le disent aujourd'hui. Donc, en prenant cette perspective de l'unicité de l'océan et sa préséance sur les terres, ces deux principes de l'ontologie marine, ça renouvelle non seulement notre compréhension de l'existant humain, en mettant en lumière notre ambiguïté, notre ambivalence, le fait que notre conscience, bien sûr, nous avons des repères. Nous avons besoin pour nous orienter dans le chaos de notre vie, mais néanmoins, nous sommes happés par cette mer, cet infini, cet immémorial, cette mémoire et ce rapport à la mort. Mais ce n'est pas un pur néant. L'être et la mer, c'est une réponse à l'être et le néant de Sartre. Et Et puis, ça, évidemment, un renversement de la perspective pour penser une philosophie qui soit à la mesure des défis actuels, politiques, écologiques. Alors évidemment, hein, je n'ai pas dit que je faisais tout. J'essaie de, si vous voulez, c'est ça l'existentialisme écologique, je voulais ouvrir une brèche. Je voulais aussi, c'est ça mon ambition première, arriver avec cet imaginaire eh bien à donner un élan à ce courant de pensée extraordinaire qu'a été l'existentialisme, qui articule la pensée et le vécu, qui est à la fois lié au concept, qui a vraiment une réflexion sur la responsabilité de l'humain, l'engagement, la liberté, le sans fond de notre existence. Et là, encore une fois, je trouve aussi Camus ne se mettait pas parmi les existentialistes, mais il est tellement profond et je me sens tellement proche de cette pensée. Hein. Et puis, à la fois donc conceptuellement cette richesse et cette réflexion sur le style. Et comme la métaphore vive, c'est pas une image pour faire joli, c'est aussi une manière d'associer des significations périphériques à la première ou des significations secondaires à la première signification impliquée par le concept pour enrichir notre perception. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a l'idée d'une philosophie qui n'est pas holiste, holistique, mais
global.
Qui n'est pas voilà, liée à un tout qu'on n'embrasse jamais, mais qui remet l'humain à sa place. Et qui est quand même celle d'un être un petit peu chaviré, déplacé, qui est dans des courants, qui est brassé comme la mer par plusieurs courants.
Et je vous cite, pour terminer cette émission, Corinne Peluchon, ce sont les dernières phrases de votre livre. « En attendant, écrivez-vous, je cherche, comme si je montrais une nageoire fendant l'océan, à desserrer l'étau qui nous prive de notre belle énergie, de celle qui donne envie d'aller de l'avant, de combattre le mal, de donner tort aux réactionnaires, de bousculer les consciences, de célébrer la vie, sa beauté fragile et surprenante, sa richesse, son mouvement, toujours recommencer. » Quand je disais que c'était aussi un livre politique, je n'avais pas tout à fait tort. Hein.
Alors à la fin, je suis un petit peu lyrique, hein, mais c'est l'image de la...
Ça ne fait pas de mal de temps en temps.
Voilà, l'image de la nageoire fendant l'océan, c'est une image qu'on trouve très souvent chez Virginia Woolf, en particulier dans Les Vagues. C'est l'idée aussi, pour moi, de la submersion, mais que la nageoire fendant l'océan, c'est quand on trouve du sens, qui est toujours un peu fragile, mais néanmoins là, c'est l'idée d'une interprétation. Il y a toute une réflexion sur les structures de l'existence, les existentiaux, flottaisons, submersion, immersion, mais également l'herméneutique, l'interprétation. Ça, c'est très important et ça, évidemment, une connotation politique puisque la démocratie, c'est quand même l'idée que le sens n'est pas a priori, il est construit, même de manière un peu laborieuse, avec plusieurs interprétations. Mais effectivement, il y a vraiment cette pensée des limites. Hein. Encore une fois, l'existentialisme et l'existentialisme écologique, l'être et la mer, il y a cette réflexion sur l'infini, hein, le monde commun, mais c'est une pensée des limites, car l'humain est petit.
Pour conclure notre conversation, Corinne Peluchon, puis-je vous demander de lire l'extrait du poème de Paul Valéry qui conclut votre livre ?
Oui, le cimetière marin, hein, donc à 7. « Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Ô puissance salée, courons à l'onde en rejaillir vivant. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie. Rompez, vague, rompez d'eau réjouie. Ce toit tranquille où picoraient des phoques.
Merci Corinne Peluchon. Votre nouveau livre, publié au PUF, s'intitule donc « L'être et la mer pour un existentialisme écologique ». Merci d'être venu dans cette émission et à la prochaine fois.
Merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette heure-ci pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.